L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'actualité mayonnaise, l'AJT du local, toujours en compagnie de Claire. Bonjour Claire.
Et oui, bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Laval toujours, un peu frais ce matin mais mieux que ce week-end, donc ça fait plaisir pour le lundi, c'est plaisant.
C'est surtout qu'il pleut, je trouve. Enfin, bon, bref, on va pas se mettre à bavarder autour du thé, mais enfin bon, effectivement, la météo suit. Et puis, on va, comme d'habitude, après ce petit préambule météo, parler un petit peu, vous donner un aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui. La collecte de jouets est assez fructueuse des enfants, qui sont aussi des habitants hein, de Château-Gontier, qui se mobilisent pour que les enfants des familles modestes aient eux aussi des cadeaux à Noël. Des sacs à main couture et éco-responsables, c'est ce que propose Pauline Combe avec ses premiers sacs fabriqués avec des chambres à air de tracteur. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et en fin d'émission, la prescription lecture jeunesse du jour assurée par Fanny de Emly-Ranjou.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. En Mayenne, les oubliés du Ségur manifestent demain.
Pour les uns, ce sera à Paris, à l'appel du groupement départemental FO des services publics et de santé en Mayenne. Un car est prévu au départ de Laval pour un arrêt au Mans jusqu'à la capitale. Et pour les autres, rendez-vous est pris à 14h place du Jet d'eau à Laval, à l'appel de la CGT et de Sud Solidaire. Mais le mot d'ordre est le même. Ils exigent la prime de 183 € mensuels pour tous les agents des établissements et services du social et médico-social.
Tendance à la baisse pour les chiffres du coronavirus.
Le taux d'incidence est de 97,3 pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé. Le taux de positivité, lui, se chiffre à 6,8% contre 10,9 il y a quelques jours. 103 personnes sont toujours hospitalisées, dont 5 en réanimation.
À Laval, près de 300 personnes ont manifesté contre la loi Sécurité Globale.
Nouvelle mobilisation samedi devant la préfecture après la première manifestation le 28 novembre qui avait réuni plus d'un millier de personnes. Une banderole a été installée samedi place Jean Moulin avec ce que les manifestants ont appelé les 388 députés de la honte, ceux qui ont voté pour la proposition de loi Sécurité Globale en première lecture. Une délégation a été reçue à la préfecture et a remis une lettre adressée au président de la République.
Les ouvriers du bâtiment en Mayenne disent adieu au repas dans le froid.
À partir d'aujourd'hui, les ouvriers du BTP seront accueillis dans les salles communales de la Mayenne pour leur pause déjeuner. La préfecture a autorisé les mairies à ouvrir ces espaces aux salariés pour qu'ils ne mangent plus dehors. Des conditions rendues très difficiles à cause de la fermeture des restaurants. Les salariés d'une seule entreprise pourront n'utiliser qu'une seule salle par commune.
Direction le Vendée Globe, Fabrice Amedeo abandonne la course.
Décision très difficile à prendre pour le skipper de Newrest Arrêt Fenêtre. Il naviguait depuis quelques jours déjà sans ordinateur de bord à l'aveugle et a donc décidé d'arrêter la course vendredi soir. Il est arrivé hier au Cap en Afrique du Sud et va remonter le long de l'Atlantique dans les prochains jours. Maxime Sorel, lui, est toujours dans la course à la 11e place mais a eu lui aussi quelques petits soucis avec deux voiles déchirées. Il vient d'essayer cette nuit de réparer cette deuxième voile.
Un match critiqué pour les tangos.
Le stade Lavallois et la réserve d'Angesco en National 2 se sont affrontés en match amical ce vendredi. Un match remporté 3-1 par Laval, mais cette rencontre était normalement interdite par le règlement de la Fédération française de football en ces temps de Covid. Mais le club se défend, ce n'était pas un match amical, mais un entraînement commun entre deux clubs qui s'est terminé par une opposition, selon leurs mots. Malaise du côté de la FFF qui se serait bien passé de cette histoire.
Marie, à l'approche de Noël, la générosité des petits castro-gontériens.
Le conseil municipal des jeunes a récolté plusieurs centaines de jouets dans les 7 écoles de Château-Gontier sur Mayenne. Des jouets qu'ils ont accompagnés d'une carte avec des dessins, poèmes, des petits mots et distribués ensuite aux associations caritatives pour que les enfants démunis puissent eux aussi avoir leur cadeau de Noël. Présentation de l'opération avec Jade, Tilia et Arthur.
Bah, y a des puzzles, des jeux de construction, des doudous. Il y a des livres, il y a plein de choses.
Ça va être donné pour Noël, pour les enfants qu'on n'ont pas. Et ils vont être donnés du coup par les associations pour que les enfants en ont. Parce qu'en fait, nous, on en a, mais eux, ils en ont pas. Donc, c'est bien de pouvoir en donner à chacun. Nous, en fait, parfois, on a des cadeaux et on se plaint un peu. Alors que là, les enfants, ils ont rien. Donc, je me dis, bah, si on se mettait à leur place, en fait, on serait pas bien. Alors que du coup, là, on peut leur offrir et je trouve ça bien de pouvoir le faire, quoi. Il y a des jeux qu'on veut mettre à la poubelle alors que là, on peut les donner ou il y a des jeux qu'on n'utilise pas. Et moi, j'en ai donné et je sais que je suis contente de pouvoir refaire une vie un peu aux jouets.
Là, les cadeaux, là, ça est carrément rempli par rapport à l'année dernière. Oui, il y en a largement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Bénédicte Ferry est adjointe au maire en charge de l'enfance et de la jeunesse. Elle avance une explication.
Les gens ont peut-être eu le temps avec ce confinement de trier, de sortir des placards, effectivement, leurs différents jouets. On a été très surpris, même si chaque année, effectivement, on trouve que c'est un élan de générosité de la part de nos concitoyens énorme. Et nos enfants du CME sont vraiment le vecteur de cette action, puisque c'est eux qui le portent dans leurs écoles. Donc, c'est qu'ils doivent faire effectivement une bonne publicité de l'action qui leur tient aussi beaucoup à cœur. Assez surpris de jouer de musique. C'est vraiment de tout, des jeux d'extérieur, même une piscine, on a vu. Des étagères, un peu de déco, de chambre pour les plus petits, vraiment de tout âge, quoi. Et c'est ça qui est formidable, puisque nous, on distribue pour des enfants de quelques semaines à 13, 14. Les jouets sont distribués à des associations caritatives de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les Restos du Cœur, aujourd'hui, sont venus effectivement récupérer pas mal de jouets. On a effectivement les pistes sociales, courte échelle. On a France Terre d'Asile. Et la joie de nos enfants, en tout cas du CME, de le faire, ben, c'est vraiment super important, quoi. On voit les étoiles qui brillent dans leurs yeux et c'est ça qui est important, cette magie de Noël.
D'autres opérations de collecte de jouets ont lieu pendant ce mois de décembre, notamment dans le cadre de l'opération Père Noël Vert du Secours Populaire. Jusqu'au 24 décembre, vous pouvez déposer des jouets en bon état dans les biocopes du département, mais aussi à l'espace Tulle, allée du Vieux-Saint-Louis à Laval. Un sac à main fabriqué avec une chambre à air de tracteur, c'est le projet de Pauline Combe d'Atelier Verdé, interrogée par Claire. Tous les détails d'ici quelques minutes, après avoir écouté Sunny de Marvin Gaye. Et oui, le soleil, à défaut de l'avoir dans le ciel, le voici.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. You gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny one, so true. I love you.
de Marvin Gaye sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local avec cette question. Mais comment faire un sac à main avec une chambre à air de tracteur? Moi, je ne sais pas. Vous non plus, ça tombe bien. On écoute ça tout de suite. Réponse dans l'interview menée par Claire.
Je suis avec la créatrice et styliste de la marque Atelier Verdet qui a sorti un tout nouveau produit à base de chambre à air de tracteur. Oui, oui, et elle va tout nous expliquer. C'est Pauline Combe. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de chambre à air de tracteur?
La chambre à air de tracteur, je la recycle actuellement depuis 5 ans. Au tout départ, je la tricotais, c'est-à-dire que je la coupais en fil. Je l'ai trouvée dans la ferme familiale. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire de véritables produits. J'ai commencé à la graver. Et du coup, d'où le sac Paulette que j'ai lancé qu'on a lancé il y a à peu près un mois et demi.
D'accord. Et vous disiez ferme familiale. C'est comme ça que vous est venue cette idée?
Oui, en fait, mon père est agriculteur. Et du coup, j'ai récupéré cette matière au fond de l'atelier dans un premier temps. Donc, je la trouvais intéressante. On avait un projet, en fait, en art appliqué qui nous demandait de recycler une matière et d'en faire complètement autre chose. Donc, j'ai commencé à la couper en fil et puis à la tricoter. Et au fur et à mesure de mes années d'études, j'utilisais toujours de façon récurrente cette matière parce qu'elle me plaisait beaucoup. Et j'ai pu, pendant mon BTS, en fait, la graver et puis en faire des sacs en maroquinerie avec des personnes qui étaient formées sur la maro. Et puis voilà, sur la matière, comment ça s'est développé.
Vos sacs ont aussi du cuir animal. Pourquoi vous avez utilisé cette alternative? Et est-ce que vous pensez qu'utiliser la chambre à de tracteur, ça pourra se faire à 100% sur vos produits?
Ça, c'est une bonne question. Ça pourrait se faire. Après, je trouve que c'est quand même plus compliqué parce que déjà au niveau des épaisseurs, etc., la chambre à air, elle n'est pas tout le temps régulière. Je pensais aussi, enfin, si le choix, j'ai utilisé du cuir, c'est aussi que j'avais envie d'avoir un produit qui soit, qu'on ait vraiment un aspect esthétique sur le produit, de pouvoir mixer plusieurs matières. Alors pour l'instant, j'utilise du cuir parce que je pense que c'est une matière qui est très résistante, qu'on utilise depuis la préhistoire. Et qu'actuellement, en tout cas, même si on a de plus en plus de matières alternatives, le cuir reste, au niveau résistance dans le temps, le plus performant. Je me trompe peut-être et j'attends de découvrir si d'autres matières me surprennent et sont plus résistantes. Mais voilà pourquoi j'ai fait le choix du cuir. Et après, donc oui, potentiellement, c'est possible de développer un produit entièrement en chambre à air, mais c'est plus compliqué en atelier. Ça demande du coup plus de développement aussi, et je pense que ça sera moins facile à mettre en place. Vraiment sur les petites quantités, mais plus qu'à grosse échelle.
Et en parlant d'ateliers, vos ateliers sont tous en France. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, pour votre entreprise?
Si j'ai fait ce choix-là, c'est que déjà, j'avais envie de travailler en local, j'avais envie de travailler main dans la main avec les ateliers, avec les artisans. Je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau qualité aussi, même si on peut, enfin, il y a des pays qui sont champions dans la maroquinerie, tels que l'Italie ou même au Portugal, où ils sont plus spécialisés chaussures. Mais j'avais vraiment envie d'axer sur le local et d'aller au bout de la démarche, en fait, sur ce concept.
Et vous êtes une jeune entrepreneuse quand même. Est-ce que c'est facile de créer son entreprise et en plus d'avoir un concept aussi particulier, je pense, par rapport à, par exemple, convaincre les fournisseurs?
Non, ça ne m'a pas forcément posé de soucis. Je pense que justement, le fait que je sois jeune, c'est peut-être un avantage. Forcément, vu ma jeunesse, je fais aussi des erreurs. Mais non, ça n'a pas été un énorme souci. Je pense que si, il y a eu quand même pas mal de mails. J'ai été soutenue aussi par mon ancien lycée de la mode qui m'a donné les contacts, les mails des personnes à contacter. C'est vrai qu'au départ, j'ai un peu, c'était pendant le premier confinement, j'ai envoyé quand même plusieurs mails. Et au final, non, j'ai fini par avoir des réponses. Je pense que quand on est déterminé, qu'on sait ce qu'on veut, on finit par y arriver.
Mais c'est un beau message pour les auditeurs. J'avais vu la campagne Ulule qui finissait fin octobre, il me semble. Est-ce que ça vous a aidé pour la conception de vos produits?
Oui, pour la conception de mes produits, je ne sais pas, parce qu'au final, ils étaient déjà plus ou moins conçus. Après, ça faisait un moment qu'on partageait sur les réseaux. On avait commencé en... juste avant le confinement. Pendant le confinement, on avait commencé à communiquer sur Instagram notamment. Donc ça m'a pas mal aidé sur ça. Et après, au niveau de la campagne, bah, ça m'a aidé beaucoup au niveau de la visibilité. Par rien que le fait, je pense que de passer actuellement, on est passé pas mal dans la presse locale, donc ça nous a pas mal aidé en visibilité. Et puis, ça nous a permis aussi de voir si le produit intéressait, si le concept plaisait. C'était vraiment un mois assez riche, même en rencontres, en découvertes, en communication. Moi, c'était vraiment intéressant, je pense, de passer par une campagne. Alors, peu importe le réseau crowdfunding qu'on utilise, je pense que c'est vraiment intéressant de passer par un début de campagne pour se lancer. Puis ça permet de passer à l'action directement et d'être dans le vif du sujet.
Oui, en plus, vous avez atteint plus que la somme demandée. Oui. Ça vous a permis à quoi, cette somme ?
Alors, cette somme, ça a permis... en fait, déjà, il faut savoir que cette somme, elle n'a pas permis non plus de... elle a vraiment permis de financer les débuts, donc tout ce qui va être production, les prototypes aussi. Ça a permis de financer tout ce qui est emballage pour nos envois. Après, nous, c'est un peu différent parce qu'on est aussi en création de société, donc il y a la création de société aussi en même temps. Non, ça a vraiment, en fait, la somme qu'on a recueillie, ça a vraiment servi juste à lancer la production et lancer les premiers produits, mais il faut savoir qu'il y a quand même des coûts de prototype au départ qui sont parfois aussi importants.
Et sur votre site, j'avais vu le concept aussi de précommander, en fait. Vous n'avez pas forcément tout en stock et vous créez par rapport à la demande. Est-ce que c'était important pour vous de faire comme ça ?
Oui, c'est important, en fait. C'est le modèle, donc ça, c'est encore un modèle qu'on étudie parce que ça veut dire qu'on travaille main dans la main avec nos ateliers et que, au niveau des délais et des timings, pour l'instant, vu qu'on est encore au début, il y a plein de choses à calibrer pour qu'on puisse faire des précommandes et être livré. L'objectif, ça serait de grand maximum un mois, voire deux, trois semaines, de plus en plus. Mais une fois qu'on aura tout cadré, ça va être notre objectif parce que déjà, nous, ça nous permet de pas surproduire. Ça nous permet de pas avoir, de la trésorerie dormante, ce qui est le problème de beaucoup d'entreprises, notamment en mode, parce que avoir des stocks et de plus en plus même de grosses boîtes commencent à fonctionner en précommande. Ce modèle, je pense qu'il va de plus en plus se répandre dans les modèles, en tout cas dans les modèles au niveau de la mode, parce que c'est vraiment un modèle qui va permettre de produire en tout cas à la juste et pas de... Il faut savoir qu'il y a beaucoup... Avant, en tout cas, je pense qu'il y en a encore qui le font, qui détruisent des produits parce qu'il y en a trop. Et ça, c'est vraiment pas la chose qu'on veut faire. Et produire en précommande, ça nous permet de tester le marché et de pas surproduire surtout.
Et par rapport au confinement, on voit qu'il y a de plus en plus de réflexions sur, justement, vous en parliez, la consommation de la mode. On va dire consommer plus éthiquement, donc du coup acheter local, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un impact sur votre entreprise, au contraire un avantage pour vous, vu que vous produisez tout en France et que vous faites par précommande ?
Alors, c'est difficile d'évaluer ça parce que par exemple, si on avait été présent l'année dernière, si ça faisait un ou deux ans qu'on était ouvert, peut-être qu'on aurait vu les différences. Mais là, vu qu'on c'est un nouveau projet, un nouveau concept, on n'a pas vraiment de référence pour savoir si ça a un impact sur nous, positif ou négatif. Après, moi, j'ai plus tendance à me dire que c'est positif pour nous et que de toute façon, on est au début et qu'on s'inscrit justement dans une nouvelle démarche. Donc, que justement, c'est un avantage. Pour nous. J'ai plus la tendance à me dire ça, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment de référence pour évaluer les pertes ou les points positifs ou négatifs.
Oui, c'est encore tout jeune, c'est pour ça, oui, c'est vrai. C'est ça. Et pendant du coup le premier confinement, vous aviez eu l'idée de la maroquinerie avec les chambres à air de tracteurs. Qu'est-ce qui nous attend pendant ce deuxième confinement ?
Pendant ce deuxième confinement, donc là déjà, on a préparé toutes les productions, parce qu'on est en plein dans les envois pour une livraison à Noël. Faut savoir aussi qu'on a je suis en train de développer un deuxième rabat, troisième rabat même, amovible pour le sac Paulette, donc un troisième choix de motifs. Donc ça, c'était préparé. On a aussi préparé un modèle de robe pour le prochain shooting. Donc on va faire un shooting prochainement et on va lancer une nouvelle campagne de précommande. Donc on a enfin reçu c'était déjà présent pour ma première campagne, mais on n'avait pas les produits en réel, en cognac et en noir. Et on va relancer une campagne de précommande juste après les fêtes pour janvier. Comme ça, pour reproduire une partie des noirs, des cognacs, et puis des nouveaux rabats. Et puis potentiellement, si même des personnes souhaitent avoir le modèle de robe, on a un modèle de robe qui sera présent sur le shooting, qui pourra être vraiment produit, mais en très petite quantité, si le modèle en plaît et intéresse. C'est plus pour mettre en avant les sacs que vraiment un nouveau produit.
D'accord, j'allais vous demander justement si vous pensiez partir sur d'autres produits que le sac, mais non, là c'est plus pour l'illustrer ou pour le mettre en valeur que partir sur une nouvelle collection vraiment vêtements.
C'est ça, parce que pour le moment, vraiment, la stratégie avec notre associé, c'est vraiment d'axer sur la maroquinerie, que le client sache Atelier Verbé, c'est de la maroquinerie, alors pourquoi pas par la suite développer d'autres filières ou d'autres du textile, mais c'est vrai qu'on va vraiment axer sur la maro et potentiellement même, j'aimerais bien en 2021 développer un nouveau produit en maroquinerie. Voilà.
D'accord, super. Comment ça se passe d'utiliser de la chambre à air de tracteur concrètement? C'est vous récupérez des pneus usagés, vous dépliez la matière et vous la découpez dedans, par exemple?
Alors, techniquement, actuellement, donc pour l'instant, c'est encore très artisanal. Donc, je récupère la chambre à air en concession agricole, je la coupe, je la lave, et ensuite, c'est moi qui les envoie directement aux ateliers pour la gravure. Donc, c'est gravé. Et ensuite, une fois que c'est gravé, c'est envoyé en atelier près de Nantes, donc un atelier qui est classé patrimoine vivant au niveau de la maroquinerie et qui nous fait nos petites productions sur le sac poulette. Il y a une partie aussi, on fait des petites pochettes indispensables de luxe qui sont faites par un artisan en Mayenne. Donc là, c'est pareil, c'est moi pour l'instant qui coupe le cuir et qui coupe les carrés de chambre à air. Et puis du coup, j'envoie pour la couture à l'artisan local. Voilà un peu actuellement comment ça se passe. Et puis après, par la suite, c'est ça qu'il va falloir que je vois. C'est si on commence à avoir beaucoup, beaucoup de demandes, comment du coup, pas automatiser, mais trouver peut-être un atelier qui les coupe, qui les lave, etc., etc.
Donc un appel à une entreprise partante.
Exactement. Si quelqu'un veut me contacter, ça peut, même si ce n'est pas tout de suite, ça peut être... par la suite intéressant d'avoir les contacts de l'entreprise qui souhaite faire ça.
Ça marche, l'appel est lancé en tout cas. Vous l'avez compris, si vous cherchez un cadeau original, éco-responsable, fabriqué en France et design, allez vite sur le site ateliersverdé.fr. Merci beaucoup Pauline.
Merci à vous. All right. Okay. Yeah. What you say?
Been killing pythons. You see T smiling, yeah, it might show. Usually unapproachable, but tonight, no. I'm in the club, one deep and comfy. No squad cool enough to be like, fuck VIP. I got standards, I am not Stundy. But this kid stepping on my crocodile Dundee. Son, please, watch where you walking is like me. Yes, you, I promise you do not want beef. With a vegetarian mercenary SMC. With a squad of the craziest French kids. I snap my fingers, shit, I get tense quick. The bandits listen and scream when they mention. Lily boy approaches what an entrance. The lights came on and the fuse was sensing.
You got me kinda weak. rhythm. Get a real woman who can sing the bitterness out and fill it with good music. In the world of cynicism and the bullshit, and try your hand at lyricism, ain't nobody cool with it. But we killing them, we back to the grill again. We rap what we feel until we capture your woman friend. Make them bounce till them back to the south. Not Africa, but exile profound. I don't even know what the song's about, man. They just say it's a vibe song. You just feel all right. You just vibe with it. You know, I'm like, yo, I'm used to writing songs about Nelson Mandela, bro. You out here. Yo, it's...
C'était Deluxe avec le morceau Too Me sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'émission L'Agité du local. Et oui, ça y est, ça passe vite. On est déjà le lundi 14 décembre. Noël, c'est dans 2 semaines. Et vous n'avez toujours pas trouvé le cadeau idéal pour votre petit cousin. Heureusement, Fanny de la librairie Emir Anjou est là pour nous donner un de ses coups de cœur en littérature jeunesse.
Emir Anjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un grand et bel album, grand par la taille, beau par le graphisme, la couleur, et puis aussi, vous allez comprendre, par son esprit. Ça s'appelle « Forêt des frères » et c'est illustré et écrit par un japonais, je suppose, qui s'appelle Yukiko Noritake, aux éditions Actes Sud Junior. Alors cet album me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, nous allons suivre l'histoire de deux frères qui héritent chacun d'une partie de forêt, d'une forêt de conifères. Et nous allons observer tout au long de l'album ce que chacun d'eux va faire de son héritage. C'est l'occasion vraiment d'une grande réflexion sur le sens de la vie et sur les choix qu'on fait. Voilà. Donc, je vous explique un peu plus précisément. Donc, j'ouvre ce grand album, voilà. Et vous avez une page de droite et une page de gauche. À chaque fois, chaque page présente les choix faits par l'un des deux frères. Donc, nous voyons la forêt de haut, comme si nous étions un drone. Et on voit ce que va devenir chaque morceau de forêt. Nous avons d'un côté un frère qui décide de s'installer en ne coupant que quelques arbres et en faisant avec les moyens du bord, c'est-à-dire en utilisant ce qu'il trouve sur place. De l'autre côté, le frère va tout couper vraiment dans un périmètre assez large pour construire une grande maison. Et nous allons voir petit à petit donc l'évolution des choses. Une maison en bois toute simple d'un côté, une maison de l'autre côté qui fait appel à des matériaux extérieurs très sophistiqués, des ouvriers, un truc qui évidemment ne prend pas en compte l'environnement naturel. Et donc on progresse encore et là on voit, alors c'est là où je trouve très intéressant les paroles. Alors, il y a très peu de texte, mais c'est extrêmement bien choisi. Là, j'arrive à l'endroit où les maisons sont construites. D'un côté, on admire le résultat, très sobre, admirer le résultat. Et de l'autre côté, on va faire voir le résultat. Donc, on a des gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Et puis, il y a ceux qui construisent aussi, aussi pour se montrer, pour se faire valoir. Et on continue comme ça, et de page en page, tout va prendre de l'ampleur. D'un côté, on va récolter sur un petit potager, on va essayer de se contenter encore une fois de ce qu'on trouve sur place. De l'autre côté, on va faire venir tout plein de choses pour agrémenter de plus en plus le quotidien. Et on tourne encore. Bon, je ne vais pas tout vous faire l'album, vous comprenez l'esprit. C'est que de plus en plus, les choses vont se détériorer d'un certain point de vue. En tous les cas, c'est comme ça que moi, j'interprète les choses. Et de l'autre côté, ben, la vie continue, elle est belle, paisible, et les gens sont heureux avec le peu qu'ils ont. Donc, je trouve que c'est un album vraiment très intéressant pour discuter avec l'enfant des choix qu'on peut faire dans la vie, surtout aujourd'hui, hein, où on parle de déforestation, où on parle... du choix matériel dans la vie, de ce qu'on fait de notre argent, des choix, vraiment la question du choix, de ce qu'on va faire de la vie et de la préservation de la nature. Très joli album à partir de, je pense, 5-6 ans. Bon, c'est pas une question de texte, hein, c'est vraiment une question de réflexion. Et voilà, je vous redis le titre, Forêt des frères, pardon, de Yukiko Noritake aux éditions Actes Sud Junior.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou, et sur l'autre radio.
Et oui, sur l'autreradio.fr d'ailleurs, on peut réécouter toutes les chroniques d'Emir Anjou, les chroniques de Fanny, donc sur la littérature jeunesse, mais aussi les chroniques de Christophe et de François, donc plutôt BD ou plutôt littérature jeunesse, là aussi plein de bons conseils. On parlait de Noël tout à l'heure, si vous n'avez pas encore trouvé tous les cadeaux à mettre sous le sapin, toute cette semaine, on vous file un coup de main, on vous donne des idées de cadeaux 100% mayennais que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et c'est peut-être encore plus vrai avec les billes fabriquées par Gaëlle Moron à Congrier. Oui, oui, les billes, les jouets stars de la récré à l'école il y a quelques années. Billes en maille est le seul fabricant français de billes en terre. Gaëlle Moron s'est lancée dans l'aventure il y a un peu plus d'un an.
Je suis fabricant de jeux en bois et j'utilisais donc les billes en terre pour des pions de jeu. Je voulais donc refaire mon stock de pions et c'est là que je me suis aperçu que l'entreprise avait fermé. Donc j'ai cherché d'autres fournisseurs et tout le monde, en fait, se fournissait donc auparavant chez Billes en Brousse, donc qui a fermé. Et comme je voulais absolument ces pions-là, je me suis dit, bah, comment on fait des billes, tout simplement. Donc j'ai cherché comment on fait des billes et donc j'ai trouvé donc différentes informations, puis les différentes machines. Et j'ai pris contact avec donc le liquidateur qui a liquidé l'entreprise Billes en Brousse pour savoir où je pouvais trouver des machines. Donc c'est lui qui m'a aiguillé vers un propriétaire encore précédent de billes en brousse et à qui lui restait des machines. C'est comme ça que je me suis lancé dans la fabrication de billes parce que j'en avais besoin pour mes jeux. La machine est facile à utiliser. Ce qui est compliqué, c'est de bien comprendre comment faire une bille. En fait, on a expliqué la théorie, mais pas la pratique. Il a fallu essayer plein de choses. En fait, je me suis retrouvé devant les machines avec la matière première et puis il fallait attaquer. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de faire la bille, le coup de main. Quand on attaque une tournée de billes, en fait, on se retrouve 4-5 heures devant la machine à travailler. On va dire, je vais lancer une grosse tournée de billes tous les mois à peu près. Ça fait partie du patrimoine quand même industriel français, la fabrication de ces billes-là. On a retrouvé des documents, par exemple, en 1915, l'entreprise Barral, qui est l'entreprise d'où viennent les machines, produisait jusqu'à 250 000 billes par jour. Voilà, donc ça donne un peu une idée de l'importance de la bille. Donc, voilà, moi je voulais absolument que ce savoir-faire perdure. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Après, je sais très bien que c'est pas avec ça que je vais être millionnaire. Hein. C'est plus, on va dire, de l'à côté. Mais je trouve ça très intéressant de garder ce produit et puis de le faire et de perpétuer ce savoir-faire et de le présenter aussi aux gens qui sont intéressés à venir visiter l'entreprise. Ben, c'est un peu comme une Madeleine de Proust, hein, pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est plus un produit, un produit souvenir. Donc, qui est aussi utilisé pour jouer, il y a des enfants qui en achètent pour jouer, mais c'est plus vraiment un produit souvenir, un produit, on va dire, haut de gamme, entre guillemets, un peu pour ça qu'il est acheté, puis aussi, surtout, pour des pions de jeu. Là, je toque, donc là, j'utilise des billes comme pion, on va retrouver le fan Rona, on va retrouver les dames chinoises, après, j'utilise des billes donc pour le jeu du Alquerque, le jeu de la Marelle, donc il y a pas mal de jeux dans lesquels je peux mettre les billes en tant que pion. Les deux plus connus, c'est le jeu de toc et les dames chinoises.
Et pour retrouver toutes les informations sur les billes en terre, mais aussi sur les jeux en bois vendus par Gaël Moron, rendez-vous sur le site concept-jeux-bois.com. Il vous reste aussi jusqu'à demain soir pour profiter de l'exposition autour de la bille en France, proposée à l'Office de tourisme d'Evron. Gaël Moron vous propose de découvrir les procédés de fabrication des billes et l'histoire de ce jeu. Et on termine comme d'habitude avec notre rubrique initiative avec toi Claire, et on parle pour commencer de la Vanière de Sacé qui part à l'assaut du numérique.
Et oui, Emmanuelle Chappé est la gérante de l'atelier de la yourte,
atelier de la yourte, c'est pas facile.
À Sacé, assez compliqué à dire, ça c'est sûr. Elle a dû, comme tous les autres commerçants, faire face à cette année compliquée, malgré la fermeture de la boutique au début du deuxième confinement. La Vanière a pu continuer de confectionner de nombreux articles en osier, mais il n'y avait plus le contact avec ses clients. Elle a donc décidé d'ouvrir un site internet, un compte Facebook, Instagram et une chaîne YouTube. Sans ce deuxième confinement, la gérante confie qu'elle n'aurait jamais été sur ces créneaux-là, mais qu'elle s'aperçoit très bien de leur avantage s'ils sont bien utilisés. Sur Facebook, elle a déjà fait un premier direct qui a très bien marché. Elle prévoit donc très prochainement sur sa chaîne YouTube des tutoriels, des méthodes de fabrication et les coulisses de sa boutique. À suivre donc avec le compte L'Atelier de la Yourte.
Et oui, donc en gros, la vannerie se met à l'ère du numérique, si j'ai bien compris.
Exactement,
et puis, une autre entreprise donc à l'arrêt qui s'est réinventée, c'est Éclat 53.
Et oui, cette entreprise d'organisation d'événements et de mariages se retrouve à l'arrêt, mais pour compenser ses pertes, elle lance des kits de décoration. Aurélie Rayon, la responsable, propose des kits contenant centres et chemins de table, des serviettes, des marque-places, des bougies, la vaisselle assortie peut-être fournie aussi, et tout cela au choix dans trois thèmes différents. Le premier est traditionnel, avec du rouge, du bois, du sapin. Le deuxième avec des tons bleu nuit et doré. Et enfin, le dernier est moderne, avec des pompons et des oranges séchées. De quoi plaire à tout le monde, n'hésitez pas à voir les kits mis en place sur leur page Facebook Éclat-organisatrice d'événements Mayenne 53. Et si vous êtes intéressé, passez commande au 06 23 33 47 17.
Et Claire, pour terminer, une causerie littéraire exclusivement sur le web.
Et oui, l'association Lecture en Tête propose un interview avec l'auteur Jean Rouen. Il a notamment écrit Les Champs d'honneur, publié en 1990, qui a reçu le prix Goncourt. Il publie cette année L'avenir des simples, petit traité de résistance, paru chez Grasset. L'auteur propose un essai sur le pouvoir sans limite des ce qu'il appelle les multimonstres. Ce sont les multinationales et le pouvoir qu'elles ont sur nos vies. La rencontre se fera en direct, uniquement sur le site le-carré.org. Et c'est demain à 18h30.
Merci Claire, c'est bien noté en tout cas pour toutes ces bonnes idées pour Noël, mais pas que visiblement. Et si vous voulez suivre nos actualités, ne rien manquer, n'hésitez pas à nous suivre sur l'autre radio, sur les réseaux sociaux, sur le compte l'autre radio, c'est mieux dans le bon sens. Et si vous voulez nous transmettre d'autres initiatives, n'hésitez pas aussi à laisser un petit message sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. C'est déjà la fin de notre émission L'AJT du local de ce lundi 14 décembre. Merci Claire.
Merci Marie et à demain tout le monde.
À demain, bon après-midi. Mais avant surtout, ne manquez pas à l'antenne puisque les émissions se poursuivent. À 19h, ce sera Solénoïde. À 20h, plongée dans la discothèque de Thomas. Et à 21h, All in Blues qui commence avec Alastair Green. Et je ne vous dévoile pas la suite. Et donc, vous l'avez compris, notre prochaine émission, c'est demain à 12h15 avec toi Claire, forcément. Bon après-midi et à demain.
Reportage,
invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.